sur d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue sur Accent. C'est la plus grande usine sidérurgique d'Europe et c'est aussi la plus polluante. L'avenir de la ville de Tarente dans les Pouilles italiennes est lié au destin de son aciérie. En mars, le Parlement italien a approuvé le décret gouvernemental de renationalisation de l'usine, ce que souhaite le chef du gouvernement, Matteo Renzi, qui aimerait lui trouver un repreneur dans les 3 ans, mais pas si simple, car Rome a déjà reçu plusieurs rappels à l'ordre de Bruxelles sur le respect des normes environnementales. À la fin des années 90, début 2000, l'Ilva de Tarente émettait 8% de toute la dioxine émise sur le continent. Les terres, la mer sont contaminées, la population meurt à petit feu, mais elle refuse de voir le site fermé définitivement. Reportage à Tarente, Mathilde Villain.
Ici, nous sommes devant l'usine sidérurgique Ilva, qui est une des plus grandes entreprises italiennes et qui est la plus grande aciérie d'Europe à cycle intégré. Cela veut dire que le minerai entre d'un côté, les produits finis sortent de l'autre.
Antonio Attilio habite à Tarente. Il est journaliste au Corriere del Mezzogiorno et chaque jour, il s'étonne encore du gigantisme de l'Ilva. Un site qui s'étale sur 15 km², 5 hauts fourneaux, des parcs de stockage du minerai sur 70 hectares et une capacité de production maximale de 10 à 15 millions de tonnes d'acier par an.
Quand l'Italie Sidère, l'ancêtre de l'Ilva, s'est installé ici, le projet avait pour but d'aider l'Italie à produire plus d'acier et d'aider le sud de l'Italie en créant des emplois et en stimulant l'esprit d'entreprise. Le ministre de l'Industrie de l'époque parlait de multiplicateur économique. Cette industrie devait avoir un effet d'entraînement sur l'économie locale en favorisant la création d'autres entreprises.
En 1995, l'Ilva est privatisé. L'État vend son aciérie à la famille Riva. Les hauts fourneaux tournent alors à plein régime jusqu'au début des années 2000, année du début du déclin et des démêlés avec la justice de la famille Riva pour fraude fiscale et désastre environnemental. 20 ans après, le gouvernement de Matteo Renzi vient donc de décider de renationaliser l'Ilva. Antonio Attilio.
Le gouvernement veut gérer le site temporairement, le remettre sur pied financièrement, l'adapter aux normes environnementales et enfin le remettre sur le marché. Est-ce qu'il y parviendra? C'est difficile à dire parce que la réussite ne se verra pas tout de suite. Mais si ça marche, alors ça valait le coup d'essayer. Le problème, c'est que l'investisseur va devoir prouver qu'il est prêt à remplir toutes ces conditions très contraignantes. Il y aura toujours un risque, celui que la justice vienne saisir son bien.
En 2012, une partie du site de l'Ilva a été placée sous séquestre par la justice, seule à se préoccuper des émissions anormales de dioxine. Angelo Bonelli, porte-parole des Verts, est très préoccupé.
Nous allons porter plainte contre le ministère de l'Environnement qui n'a pas qualifié tout ceci de dommage environnemental. Pourquoi ? Parce que cela l'obligerait à fermer l'Ilva définitivement. Il faut savoir que dans un rayon de 20 km autour de l'usine, il est interdit de faire paître le bétail, parce qu'il risquerait d'être contaminé par la dioxine. Dans le lait maternel des femmes, il y a de la dioxine. Et la dernière analyse épidémiologique a fait état d'une situation dramatique. Le taux de mortalité des enfants à Tarente est 20% plus élevé que dans le reste de la région. Et les diagnostics de cancer et tumeurs chez les enfants sont 2 fois plus élevés qu'ailleurs. C'est un bulletin de guerre.
Un diagnostic confirmé par Enzo Baio, médecin et adjoint à l'environnement de la mairie de Tarente. Enzo Baio vit et exerce dans le quartier Tamburi, quartier ouvrier littéralement collé au site industriel.
Moi, j'ai grandi et vécu dans ce quartier quand l'Ilva n'existait pas encore. À la place de l'usine, il y avait des champs de blé. Et comme médecin, j'y vis toujours. Il ne se passe pas un jour sans que je dois faire un diagnostic sur des pathologies étranges, inexplicables, du moins officiellement.
Entre le quartier ouvrier dit des Tamburi et l'usine Ilva, il n'y a qu'un cimetière. Les pierres tombales sont en marbre rouge, de la même couleur que cette poussière toxique qui a envahi les maisons et les poumons des habitants. Le quartier est sinistré. Tarente est une ville fantôme. Avant d'aller pointer à l'usine, les quelques employés qui y travaillent encore avalent rapidement un café au bar de la place, tenu par Ignazio D'Andria.
On nous a tous détruits. On meurt lentement, à petit feu dans cette ville. Ils ont conduit tellement de personnes, tellement de cerveaux au néant. On nous enterre lentement, mais celui qui a un instant de lucidité fait tout pour s'enfuir.
Déchirés entre défendre leur droit au travail et leur droit à vivre, inquiets pour l'avenir et la santé de leurs enfants, conscients cependant de la complexité de la situation, les habitants de Tarente n'ont qu'une crainte, celle d'être oubliés et abandonnés par l'État italien à leur triste sort.
Depuis que la Crimée est passée sous le contrôle de Moscou, rejoindre le continent est devenu plus difficile. La péninsule est physiquement isolée du territoire russe et l'aéroport de Simferopol ne dessert plus que des villes russes. À la gare ferroviaire de Simferopol, il n'y a plus aucun train pour relier l'Ukraine. Elle est de fait quasiment vide, c'est ce qu'a constaté sur place Étienne Bouche.
Autour de la gare de Simferopol, des chauffeurs de taxi en bonnet et blouson noir se disputent de potentiels clients qui viennent pour la plupart prendre le bus. En Crimée, c'est le moyen de transport le plus répandu pour relier les principales villes de la péninsule. C'est un flux de passagers permanent, on fait la queue pour acheter un ticket. Mais à quelques mètres seulement, le contraste est frappant. La gare ferroviaire, grand bâtiment de style soviétique, est presque vide. Les kiosques et les points de restauration sont fermés. Et pour cause, la plupart des trains ne circulent plus. À l'entrée, le grand panneau d'affichage annonce la couleur. Annulé, annulé, annulé. Plus de trains pour Kiev, Dnipropetrovsk ou encore Odessa. Pour les habitants de la Crimée, il est désormais impossible de relier l'Ukraine par le train. On ne dessert plus qu'une poignée de destinations locales. Djankoï, une ville située au nord, à proximité de la nouvelle frontière, Yevpatoria et Sébastopol. À l'intérieur, dans le hall, quelques passagers attendent les rares annonces enregistrées. Le responsable de la consigne s'extrait de sa somnolence lorsqu'il voit apparaître une valise. Tout ira mieux lorsqu'il y aura un pont, assure-t-il. Moscou prévoit en effet de rattacher physiquement la péninsule à la Russie, car aujourd'hui à la gare de Simferopol, on peut rejoindre la capitale russe, mais il faut être patient. Le vaillant passager descend du train au détroit de Kerch, prend le ferry, puis monte dans un autre train de l'autre côté de la rive.
Aux réseaux sociaux, le métier d'agriculteur prend un sacré coup de jeune. Les paysans y suivent et partagent l'actualité agricole, évoquent leur travail, leurs produits. On raconte les dessous pour offrir de véritables plongées dans un monde méconnu des citadins. Autant d'initiatives qui permettent de resserrer les liens donc et de rentrer en contact avec ceux qui nourrissent Twitter, Instagram, Facebook. Tout est bon pour les agriculteurs européens. C'est le cas en Grande-Bretagne. Désormais, le smartphone est aussi indispensable que les bottes en caoutchouc pour les fermiers. Marie Billon s'est rendue dans le Kent.
Quand il sort le matin pour aller travailler sur les plus de 10 000 hectares que compte son exploitation agricole, Ed Ford n'oublie jamais son téléphone portable. Ce qu'il préfère, c'est tweeter. Il tweet au moins 5 fois par jour. En fait, il gazouille en travaillant.
Ces tracteurs tout neufs, ils se conduisent tout seuls dans les champs. Donc, quand je trace des sillons, je sors souvent mon téléphone. Je regarde le fil, j'envoie quelques tweets, une photo pour montrer à quel point mes sillons sont droits, par exemple. Là, je suis dans la cour et je recharge le vaporisateur d'engrais. J'en profite pour tweeter à quelques amis fermiers ce que je suis en train de faire. Je mentionne aussi le fournisseur du produit. Il va sûrement me retweeter et s'il pense que je m'y prends mal, il me le dira. Et puis là, en regardant mon fil, je vois qu'on est plusieurs fermiers à faire la même chose. C'est chouette.
Ed a 24 ans, c'est le président de l'association des jeunes fermiers du comté d'Essex au nord-est de Londres. Il travaille dans la ferme familiale avec son frère et ses parents. Ça fait 2 ans qu'il est un utilisateur assidu des réseaux sociaux.
C'est un très bon moyen pour partager les idées, discuter de nos méthodes et ça permet aussi de parler avec des gens avec lesquels on ne communiquait pas. Je veux parler des politiques. Maintenant, ils regardent ce qu'on tweet. C'est pareil avec le public en fait. Aujourd'hui, les gens veulent de la nourriture. nourriture pas chère. Donc sur les réseaux sociaux, on leur montre qu'on est dehors tous les jours pour produire ce qu'ils vont manger et qu'on veut être payé à la hauteur de notre travail. Et puis ça prouve que l'agriculture n'est pas un vieux métier poussiéreux.
Les réseaux sociaux sont donc un outil promotionnel. Certains, comme Ed, s'en servent avec décontraction. D'autres prennent les choses très au sérieux. C'est le cas de Chegworth Valley, dans le comté du Kent, à l'est de Londres. L'exploitation familiale qui s'est transformée en entreprise a même une responsable du marketing, Vicky Wright. C'est la tweeteuse en chef.
Tous ceux qui travaillent à la ferme sortent toujours avec leur téléphone. Ils prennent une photo, ils me l'envoient et je la poste sur notre compte. On publie un peu tout quand on cueille les pommes, si on voit un arc-en-ciel ou un beau coucher de soleil sur notre champ ou juste une pomme particulièrement belle.
Chegworth Valley produit 2 millions de bouteilles de jus de fruits et de pommes surtout chaque année. Leurs produits sont mis en vente à Londres, dans les cafés branchés, un peu bobo, un peu hipster, ou dans les marchés, les lieux fréquentés par ceux qui prônent un retour à la nature face à la nourriture de supermarché. Et ses clients aiment beaucoup discuter avec le producteur.
C'est vraiment utile pour nous de pouvoir prendre une photo dans la ferme, puis une photo du produit sur les étals du marché. Ensuite, ce sont nos clients qui répondent. Ils prennent une photo du smoothie qu'ils ont fait avec nos produits ou d'une recette concoctée avec nos fruits et nos légumes. Ce qui nous permet vraiment de fidéliser une clientèle de particuliers et de chefs aussi. Beaucoup entrent en contact avec nous via Twitter.
Ce qui marche le mieux, ce qui est le plus retweeté sur le compte de Chegworth Valley, ce sont les recettes. Mais au niveau national, ce qui marche le mieux, c'est le selfie. Avec un F, le selfie de la ferme. Charles Tassel, un fermier du Kent.
Les plus populaires mettent en scène des animaux. Une vache qui regarde par-dessus votre épaule, un mouton qui vous fonce dessus. C'est ça qui marque le public. Mais pas seulement. Un de nos voisins adore YouTube et une de ses vidéos a été vue plus de 300 000 fois. Il ne sait pas pourquoi celle-là a eu tellement de succès. C'est juste un tracteur dans son champ. Mais c'est vrai que c'est un gros tracteur.
L'exploitation de Charles Tassel, Church Farm, est à quelques kilomètres seulement de Chegworth Valley. C'est l'un des cofondateurs d'AgriChat, un chat organisé sur Twitter tous les jeudis soirs pendant une heure et demie. Chaque semaine, un thème auquel participent une centaine de fermiers. Parce que les réseaux sociaux, c'est bien pour la promotion du métier et des exploitations, mais c'est aussi un lien humain très utile dans une profession très isolée.
Aujourd'hui, avec la mécanisation, il y a beaucoup moins de gens qui travaillent dans chaque ferme. Le marché au bétail, avant, c'était une occasion de nous retrouver. On pouvait partager nos bons moments et les plus mauvais pour nous soulager. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On n'a plus besoin de sortir de sa ferme, en fait. Les réseaux sociaux, ça remplace ce lien. Le meilleur exemple, c'est le club Hectare. Tous les matins, John Ho publie un tweet du genre « Bonjour tout le monde, il pleut aujourd'hui » et les fermiers répondent « Bonjour, voilà ce que je vais faire de ma journée ».
À cause des incertitudes et du stress créés par les marchés et la solitude, les paysans, en effet, sont sujets à la dépression. Dans leur cas, Internet et les réseaux sociaux sont donc un réel bienfait social. Voilà pourquoi, notamment, le gouvernement s'est engagé à ce que 90% du territoire soit couvert par le haut débit d'ici 2016.
Le reportage de Marie Billon a été réalisé avec le soutien de l'Union européenne.
Welcome to White Collar Boxing. Banner her style.
Vous avez peut-être reconnu l'accent irlandais. Oui, en Irlande, où un drôle de prêtre a récemment filé des gants de boxe pour affronter l'un de ses paroissiens pour la bonne cause. Le curé de la petite ville de Banagher, Pierre Dialapeño Pepper, a montré autant d'autodérision dans ses vidéos que de ténacité sur le ring, où il s'est imposé en 3 rounds. Sébastien Duval nous appelle de Dublin.
Gantboxe au poing, serviette éponge sur la tête, le père Pierre Pepper défie son futur adversaire sur fond de musique d'église. Entouré de 5 autres prêtres à l'air menaçant, il lui promet enfer et damnation tout en citant la Bible. C'est l'une des vidéos d'avant-combat postées en ligne par le Boxing Priest. Des mises en scène décalées, où l'on peut tantôt le voir faire son footing ou frapper dans des carcasses de viande à la façon de Rocky Balboa. Rebaptisé pour l'occasion Pierre Jalapeño Pepper, du nom d'une variété de piments, le curé irlandais n'était jamais monté sur un ring auparavant. Mais l'idée d'un combat de charité a germé un soir dans un pub autour de quelques pintes. Cet ancien joueur de football gaélique s'est alors entraîné 5 fois par semaine en marge de ses activités religieuses. Largement partagé sur les réseaux sociaux, ses vidéos humoristiques lui ont valu une petite notoriété en Irlande. Il a même été invité sur le plateau de l'une des émissions de télé les plus populaires du pays, le Late Late Show. Plusieurs centaines de personnes ont assisté au combat lors du week-end de la Saint-Patrick. Les bénéfices de la soirée ont été intégralement reversés à diverses associations caritatives locales. Sur un ring installé dans l'arrière-cour d'un pub de campagne, le prêtre de 37 ans a troqué sa chemise noire et son col blanc pour un débardeur du plus bel effet. Malgré la neutralité de Dieu, il a remporté le combat haut la main en 3 rounds. Quelques heures plus tard, le père Pepper célébrait la messe du dimanche matin, sans même une égratignure.
For more than a year, ominous rumors have been privately circulating.
Music. Let me know when you're ready.
That's a good start.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Vous nous emmenez vers d'étranges rivages musicaux.
Eh oui, c'est dans le brouillard épais d'une musique et d'un groupe bien mystérieux que je vous propose de nous perdre aujourd'hui. Un brouillard où s'effacent les frontières musicales, mais pas seulement, puisque les musiciens du trio Warm Graves sont italiens, allemands et américains. Ils se sont formés en 2012 à Leipzig, en Allemagne, et c'est à peu près tout ce que l'on sait d'eux. Le reste est à chercher du côté de leur premier album, Ships Will Come, où une grosse demi-douzaine de chansons se déploie sur la longueur dans des ambiances crépusculaires, clavier, batterie et guitare noyées entre la réverbération et un imposant chœur d'une vingtaine de chanteurs. Le résultat est stupéfiant.
Welcome des Allemands Warm Graves qui seront d'ailleurs au Festival Rockville de Hambourg à partir du 21 août. Merci de nous avoir suivis à la réalisation, Françoise Grelot. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans un instant, les infos.